Qu'est-ce qui vous pousse, Philippe Solers, à oser l'autobiographie de Vision à New York? Quand vous parlez, par exemple, de cette double maison parfaitement symétrique.
Oui.
Parce que c'est la première fois où vous vous racontez, enfin vous...
J'avais écrit un petit texte qui était publié dans la NRF, je crois, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, qui s'appelait « Images pour une maison », qui avait l'air d'être un texte de souvenir, mais qui en réalité essayait de tracer l'épure de cette détermination enfantine. Oser, alors oui, on a l'impression, dans ces textes abstraits, entre guillemets, du début, que l'auteur n'est personne, vit dans une sorte d'indécision générale. Et je vous ai dit, j'ai retardé autant que possible le moment de dire qui je suis. Parce que c'est une donnée parmi d'autres, il faut savoir, c'est de la traiter. Alors, c'est l'histoire Bordeaux, ça... Bon. C'est à partir du moment où ce que j'appellerais, alors moi, la mythobiographie est assez forte pour devenir un élément d'un récit. Bon, si vous restez dans la biographie, c'est pas très intéressant. Mais à partir du moment où votre biographie peut être traitée comme une mythobiographie, vous avez trouvé un élément du système qui est fondamental. Je crois que toute biographie peut être traitée comme une mythobiographie. Mais ça demande un gros travail parce qu'il s'agit de s'y repérer dans tous les coins de sa biographie. C'est pour ça que les gens vont en analyse, ils ne savent pas ce que c'est que leur biographie. Ils sont dans l'oubli. Alors, ils vont trouver quelqu'un pour lui parler, associer librement, payer. Ils achètent leur biographie. C'est pas une mauvaise façon de procéder. Encore que ce soit un peu répétitif, parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, à savoir les rêves. Et les rêves n'ont pas grand-chose d'autre à dire que... que la passivité par laquelle ils sont engendrés. Donc il y a un moment où la décision doit en art, enfin en littérature, doit avoir lieu. Hein. C'est pour ça que c'est pas une biographie tout à fait comme les autres. Mais être vraiment à l'heure avec sa biographie, l'avoir saturée, si vous voulez, alors on peut tenter le coup de la mythobiographie. Et ça, c'est intéressant. Alors, à partir de là, ça devient, les éléments étant assez bien identifiés, ça devient une répétition, fugue et variation, parmi d'autres. Et on peut s'utiliser soi-même comme le personnage qui est en train, comme un acteur, qui joue sa biographie. Portrait du joueur, c'est ça. Voilà. Portrait du joueur, c'est ça. C'est un livre que j'aime bien parce que il est plein de souvenirs d'enfance contredits constamment par une violente expérience érotique. Comme si le paradis... entre guillemets enfantin, le conte de fées enfantin était harmonique avec une certaine expérimentation érotique constante, ce que je crois d'ailleurs. Enfin, il faut oser le mettre vraiment brutalement en scène, ce que j'ai fait dans Portrait du joueur, d'où la correspondance très hard, comme on dit, qui occupe le cœur du bouquin. Et autour de ça s'enroulent des réminiscences d'enfance. Il y a une femme d'ailleurs qui m'a dit c'est bien, c'est parce que finalement l'élément pornographique devient comme un conte de fées. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pas un conte de fées où il y a des citrouilles qui se transforment en carrosses, mais après tout. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une annonciation là, de Signorelli, puis j'en ai deux autres dans les deux autres pièces. Je suis en train de travailler sur ce que ça veut dire que ces représentations de l'Annonciation, ça m'intéresse. C'est le début d'une partie d'échec assez considérable. C'est vraiment l'acte fondateur. Vous voyez, par exemple, là, Signorelli a bien senti ça, c'est comme sur un échiquier, hein, cet ange qui apparaît avec... Qu'est-ce que fait cette fleur-là? Qu'est-ce qu'elle signifie exactement? Qu'est-ce que c'est que cette séparation entre... la Vierge et l'ange, où se situe exactement le Saint-Esprit dans l'opération et le Père là-haut. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ces tableaux me donnent une très violente émotion érotique. Et je pense d'ailleurs qu'ils sont faits pour ça. Ça nous amènerait à réfléchir sur les systèmes qui sont plus ou moins porteurs de révélations, les systèmes métaphysiques ou religieux qui sont plus ou moins porteurs de révélations sensibles, érotico-sensibles pour les gens. Vous savez que Mishima, par exemple, a découvert son homosexualité en regardant des Saint-Sébastien, de Ricci, je crois, ou de Mantegna. Ça l'a happé. Il s'en est parmi. Et voilà un Japonais qui a été conquis par des tableaux assez loin de lui, quand même. Voilà, il s'est vécu comme ça. C'est pas tout à fait mon cas, même pas du tout. Mais enfin, je comprends très bien le mécanisme. Alors bon, mais ça, si vous voulez, je vous mets mon catholicisme en avant, justement, pour ces raisons-là. Que c'est très, 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 très chargé, cette affaire-là, de représentation et d'incitation à vivre ces micro-moments dans des micro-espaces où on est très violemment l'objet de son propre désir. Je lisais récemment un article très bien sur Sartre. Il y a une exposition de peinture à Rome sur Sartre et le type qui a écrit cet article montre très bien comment Sartre n'a jamais vraiment voulu regarder la peinture. Il allait tout le temps à Rome, mais il n'a pas vu ce qui s'y passait. Pas vraiment. Un peu d'intérêt, mais pas vraiment. C'est intéressant. Je connais des gens qui vont en Italie et qui voient rien. C'est une anecdote de Maurice Reims qui me racontait ça. Il était très ami avec André Breton. Il faisait des voyages comme ça. Reims, vous savez, Reims, c'est un ange, Reims. Il s'occupe d'art. Et il voyage avec André Breton. Un jour, il se retrouve, je ne sais plus où, dans le sud-est, du côté de Perpignan, peut-être à Elne. Il y a un cloître superbe. Et alors, ils arrêtent la voiture, ils rentrent, et puis s'aperçoivent qu'André Breton ne les avait pas suivis. Et ils reviennent, ils voient que Breton était resté dehors sur la place, en plein soleil. Il dit, mais André, vous ne venez pas voir ce cloître. Et Breton leur dit, je n'entre jamais dans des endroits pareils. Voilà. Et ben moi, j'entre partout, ça ne me fait pas peur. Bon. Et l'Italie, alors de ce point de vue, c'est vraiment l'endroit où on n'arrête pas de rentrer, de sortir, si on veut. Remarquez bien que Stendhal a des préjugés, lui aussi, quand il arrive en Italie. Il n'ose pas trop rentrer parce qu'on revient toujours à notre affaire. Il est plein de la logique rationnelle et révolutionnaire. C'est ça qu'il aimait. Et puis il n'ose pas trop rentrer dans les églises d'Italie. Mais petit à petit, alors il devient de plus en plus italien, au point qu'il meurt italien, lui.
Vous n'êtes pas entré pareil dans Femme et dans Paradis. J'ai l'impression que le travail s'est fait différemment, non?
Oui, mais ça vient du fait que, alors vous parliez de computer là tout à l'heure, ça vient du fait que Paradis c'est un organisme à syllabes vraiment, c'est la syllabe qui roule et qui est travaillée de ce point de vue. C'est un organisme, oui, très très fin, chirurgical.
Qui demande des fiches?
Oh là là, oui, bien sûr. Oui, enfin des fiches, des notes, des épiphanies constantes. Ah, épiphanie, arrêtons-nous une seconde.